Aujourd'hui, au Capi Action s'intéresse sur l'escroquerie à travers l'Internet. Peut-être que parmi vous, auditeurs de Radio Capi, certains se sont déjà fait escroquer sur Internet. Aujourd'hui, pour vous sauver et pour aider bon nombre de gens à ne plus être escroqués, une structure pour lutter contre ce type d'antivaleur dans notre pays a vu le jour. Il s'agit de l'Observatoire Congolais pour lutter contre la cybercriminalité. Et oui, ça existe. Mais avant de recevoir dans ce sujet l'auteur de cette initiative, nous allons faire le point avec notre confrère Berry Franklin Luchaka, qui s'est penché sur ce phénomène. Nous invitons tous ceux qui se sont déjà fait escroquer sur Internet à témoigner, même ceux-là qui n'ont jamais été, témoigner au 081 070 2050. Et si vous nous suivez en ce moment sur Internet, écrivez-nous à action@radiocapi.net. Berry Franklin, bonjour.
Bonjour, Nicole.
Alors, ce serait bien, avant d'aller plus loin sur la question, de commencer par définir, peut-être que bon nombre de gens n'ont jamais entendu parler de la cybercriminalité. Alors, en quelques mots, qu'est-ce qu'on peut dire sur la cybercriminalité?
Disons que dans des termes très simples, la cybercriminalité peut se définir comme tous les crimes qui se commettent par Internet. Vous avez par exemple des messages indésirables, communément appelés spam, vous avez le piratage informatique, vous avez l'utilisation des virus informatique pour nuire à autrui, la violation de la vie privée, le cyberterrorisme, la cyberpédophilie, etc. Donc, il y a plein de choses.
C'est toujours bien de passer par des exemples. On pourra revenir à ce sujet avec notre invité. Mais il s'agit en fait d'un vaste domaine. On retient cela. Est-ce que les Congolais connaissent le concept de cybercriminalité?
Bon, nous avons promené notre micro-baladeur à travers la ville de Kinshasa et principalement dans les cybercafés pour en savoir un peu plus. D'une manière générale, beaucoup sont encore ignorants de ce phénomène. Voici ce que les internautes et informaticiens nous disent à propos.
Non, je ne connais pas.
Non, je ne connais pas.
Bon, à présent, non.
Non, ça va.
Je ne maîtrise pas très bien quoi, les domaines de l'informatique. Je sais que vous parlez de tout ce qui est lié à l'Internet, mais je n'ai pas assez vraiment de mention là-dessus.
Ah, c'est peut-être que je serai la première personne à me parler ça. Hein. Cybercriminalité. Pourquoi le terme cyber a combiné avec le terme criminalité?
Oui, j'ai déjà entendu parler de ce concept-là. Ben, la définition comme telle, je ne la connais pas exactement, mais d'emblée comme ça, je peux vous dire que ce sont des personnes qui s'infiltrent dans les mails ou bien qui trompent certaines personnes. Par exemple, acheter des histoires à travers Internet, c'est ce que moi je connais.
Oui, à peu près, parce que je suis informaticien. Je peux vous dire, par exemple, sur le net, il y a des websites, par exemple, que l'on crée. Bon, il y a des différents crimes par rapport à la cybercriminalité. Il y a des gens qui ont des sites de pédophiles, il y a aussi des escrocs, ceux qui font le, comment on appelle, le phishing.
Voilà, donc parmi vous, certains connaissent hein, la cybercriminalité, d'autres non. Réagissez toujours au 081 070 2050 pour partager ce débat avec nous. Alors, Véry, nous pouvons déduire que l'escroquerie à travers l'Internet est une forme de criminalité. Mais comment reconnaître que tel message est une escroquerie?
En fait, Nicole, d'après nos interlocuteurs, toute personne qui dispose d'une adresse email peut recevoir régulièrement un ou des messages provenant des inconnus. Et c'est principalement du genre vous avez gagné 1 million de dollars à la loterie. En conséquence, ceux qui sont avertis de ce type de message les effacent et d'autres cherchent à connaître la provenance. Plus encore, il y a d'autres personnes, il y a des internautes qui s'inscrivent dans certains sites gratuits dont ils ne connaissent pas la finalité. Sans verser dans plus de commentaires, Nicole, je vous prie de suivre ces internautes.
Le phishing, par exemple, c'est qu'on vous envoie des mails, par exemple, publicitaires ou du style, on vous dit, vous avez gagné 50 000 dollars et vous êtes heureux gagnant et vous tombez dedans comme sur du fromage.
On peut dire que ça arrive régulièrement chaque semaine, au moins une dizaine de messages par semaine environ. Bon, la plupart du temps, on essaye de voir s'ils sont pertinents, s'ils viennent de sources authentifiées à l'extérieur, sinon on ne les lit pas.
Des fois, je passe, bon, peut-être aussi, j'essaye de répondre.
Et puis vous répondez, vous mettez vos coordonnées, et puis à la fin, ils vont commencer à vous demander. À la fin, ils vont carrément d'envoyer de l'argent, quelque chose comme ça, et ils vont escroquer. Ou encore, d'autres choses comme des sites, comme en ce moment, il y a un site i5, où il y a des millions d'utilisateurs. Mais les gens ne se rendent pas compte, en fait, le site est gratuit, et vous mettez vos photos, vous mettez vos, carrément toutes vos coordonnées facilement pour venir sur vous, et par rapport aux cartes de crédit, Mastercard, American Express, tout ce que vous connaissez, vous pouvez facilement être, qu'on peut vous extorquer de l'argent via ce genre de website. Ouais.
Voilà des pistes qu'il faut retenir pour ne pas se faire escroquer. Peut-être que vous l'avez déjà été, auditeur de Radio Capi, vous qui nous suivez en ce moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous un peu les faits au 081 070 2050 pour aider d'autres personnes à ne pas se faire escroquer comme vous. Alors, en fait, il ne faudrait pas seulement faire attention aux messages inconnus, mais aussi au site où on s'inscrit dans tout cela. Alors, est-ce que vous avez rencontré des gens qui se sont fait escroquer par Internet?
Justement, Nicole, nous avons rencontré des gens et je ne veux pas verser dans des commentaires suivant ce témoignage de ce monsieur qui s'est fait escroquer.
En effet, on a reçu il y a quelques temps un message là, nous escroquant, sans pour commencer à nous dire voilà, nous avons connu des problèmes et les gens qui écrivent. Par exemple, la première personne qui m'a écrit le message sur Internet s'appelait Omar Ouattara. Comme quoi, il avait des problèmes avec son pays. Et voilà qu'il a découvert dans un compte bancaire une somme assez importante qui était laissée par un sujet indien qui aurait habité leur pays, mais qui serait décédé au cours d'un accident d'aviation. Dieu n'est pas d'aider les gens, et compte tenu de la découverte qu'il a faite de cette grosse somme d'argent, il aurait souhaité récupérer cet argent en utilisant quelqu'un d'autre qui pouvait bien l'aider, quelqu'un qui serait dans notre pays, vers qui les montants seraient transférés, dans le but, n'est-ce pas, de pouvoir investir et essayer un peu d'aider les pauvres avec cet argent. Il solliciterait quelqu'un de Bansa qui accepterait le transfert de cet argent. Et quand c'est tombé par moi, je suis entré en contact pour savoir qui il est, qu'est-ce qu'il fait, au fait, quels sont ses objectifs. Et voilà, on a développé une certaine correspondance. Et n'est qu'après qu'il me demanderait si je pouvais ouvrir un compte bancaire chez nous ici pour que le transfert soit opéré. J'ai dit, bon, très volontiers, ça je le ferai. D'autant plus que, bon, l'argent ne peut pas rester comme ça. Il faut que ça soit utilisé à des fins utiles. Pourquoi pas aider les pauvres? Pourquoi pas investir avec? J'ai ouvert un compte en banque. Après, le monsieur me demandera que si je pouvais bien répondre à une série de questions qu'ils ont posées. Et j'ai essayé de répondre à ces questions et entrer à l'identité de la personne qui est morte dans ces conditions. Ça, il m'avait aidé pour me dire comment, si on peut poser des questions, voilà comment il faut répondre. Il y a ici une série de questions en face desquelles j'étais obligé de répondre. Qu'est-ce qu'il me l'a dit, et ça, j'ai essayé de le faire. Plus tard, après avoir développé la correspondance, la personne me dira, bon, maintenant, voilà, il va falloir que vous puissiez verser un montant de $350 pour que les transferts deviennent effectifs. Les transferts, j'ai dit, tant mieux. Mm-hmm. J'ai essayé de les faire, mais par la suite, je n'ai plus eu d'écho. Je n'ai plus eu d'écho dès lors que j'ai essayé de transférer, d'envoyer le montant tel qu'il aurait demandé par DHL au nom ou pour le compte de la maison qu'il m'avait indiqué.
Voilà, donc le monsieur s'est fait escroquer sur Internet. Il est tombé dans le piège de ce fameux Omar. Il y en a plusieurs des Omar sur Internet. Il s'est fait escroquer $350 américains. Il y en a qui ont dépensé plus dans cet escroquerie. Alors, pour évoluer sur la question des riz, certains, je pense, il y a eu certaines personnes qui ont aussi eu à vivre ce genre d'incident sur Internet.
Bon, je dirais aussi oui, mais il y en a qui étaient déjà avertis et d'autres qui ont simplement entendu parler. Mais suivant quand même ce que disent les gens et surtout sur les gens qui sont susceptibles d'être escroqués.
Personnellement, non. Mais on entend ce genre de cas un peu partout, dans les universités, parmi les étudiants et parfois des ONG qui sont victimes de ce type d'escroquerie. Bon, dans la plupart des cas, vous recevez un message qui vient d'une personne anonyme qui vous propose de faire affaire avec elle. Cela se passe généralement dans un contexte international assez particulier, lorsqu'il y a par exemple eu la vague d'expulsion des fermiers blancs au Zimbabwe. Il y a des personnes qui ont tiré parti de cette situation pour se faire passer pour des fermiers blancs zimbabwéens vivant en Afrique du Sud et proposer à des Congolais, à des Maliens, à d'autres personnes de pouvoir les aider à faire sortir leur fortune qui se trouve au Zimbabwe. Bien sûr, cela se faisait en contrepartie d'une commission qu'on vous remet si vous acceptez de garder le secret et de souscrire à cette affaire.
Oui, une fois, bon, on peut dire oui et non.
Je savais que c'était une arnaque puisque je reçois souvent ce genre de mails, mais je voulais les pousser un peu à bout. C'était genre une loterie de Bill Gates, j'avais gagné une loterie de Bill Gates, tout ça. Ben, par après, ils m'ont demandé que non, pour avoir ce montant-là, il fallait envoyer une certaine somme et par carte de crédit. Je les ai appelés, c'était en Côte d'Ivoire. Ils me disent, oui, monsieur, effectivement, vous avez gagné tout ça là. Mais comme je savais bien que c'était une arnaque, deux, trois jours après, je les ai appelés. Je leur ai dit, mais non, mais comment je peux être le gagnant pendant qu'il y a aussi mon cousin qui gagne le même prix? Et depuis ce jour-là, ils n'ont plus jamais rappelé. Mais c'est à base de là, maintenant que j'ai compris que les gens ne doivent pas se faire arnaquer, vous avez gagné tel truc, tout ça. Non, il faut pas suivre ça.
Voilà, il faut pas suivre ces arnaques-là. Mais il faut savoir aussi qu'on est un arnaqué, parce que bon, dans bien des cas, on ne le sait pas, qu'on n'est pas un habitué, hein, et on tombe facilement dans le piège. Il y a un auditeur d'ailleurs qui a réagi à ce sujet, il nous dit, très souvent, il y a aussi des messages du genre, je suis le fils de tel président, sur mon compte il y a autant de millions, je voudrais faire un transfert. Et très souvent, c'est de l'arnaque, dit-il. Ça, c'est la réaction d'un auditeur. Alors, selon nos sources, Berry, une structure pour lutter contre ces pratiques en République démocratique du Congo a vu le jour. Est-ce que vous êtes informé?
Bien sûr que si, Nicole. Mais comme cette structure est encore à ses débuts, beaucoup d'internautes ne sont pas encore au parfum de l'information. Néanmoins, quelques-uns ont émis des vœux en rapport avec cette structure. Parmi ces vœux, certains disent que cet observatoire devrait naître au même moment où il y avait l'expansion de l'Internet. D'autres, par contre, disent que c'est une mission quasiment difficile, surtout ici en RDC. Qui vont se condenser dans cet élément?
D'abord, sensibiliser ceux qui sont en permanence contact avec le web, organiser des séminaires pour prévenir, puisque ça atteint tout le monde. Vous pouvez vous trouver dans X ou telle entreprise, tout ça, vous pouvez être victime d'une attaque, d'une cybercriminalité. Ça n'atteint pas que ceux qui ont Internet chez soi à la maison, c'est partout, dans les banques, partout. Tout ce qui est informatisé, donc, sont victimes. Donc, il faut juste être prudent. Leur devoir, ils doivent sensibiliser.
Je pense que l'Observatoire a un rôle principal de monitoring, c'est-à-dire recenser les cas qui sont survenus et les porter auprès des services de police. Il n'appartient pas à l'Observatoire de se substituer à la police. La police a la prérogative de mettre la main sur ces personnes. Il y a un problème, certes, logistique qui se pose, un problème de traçage électronique. Là aussi, il faut que la police soit mise à niveau. Mais je pense que l'Observatoire ne doit se limiter uniquement qu'à un rôle de monitoring.
Il va devoir faire des campagnes de sensibilisation pour sensibiliser les internautes, surtout ceux qui sont toujours branchés pour pouvoir espérer gagner quelque chose via Internet.
Et je pense qu'on n'a pas encore vraiment les moyens pour commencer à coincer ce genre de personnes, parce que normalement, par exemple comme en France, les gens qui s'occupent de ça, c'est une brigade de la police criminelle. Donc les cyberpoliciers, en fait, qui sont des informaticiens, des cryptologues et tout. Vous savez qu'on a une connexion ici qui est assez lente et des fois c'est difficile pour revenir par rapport à, comment je peux dire, le journal par exemple de certains chemins que des bandits ou des pirates informatiques ont peut-être pu emprunter. Donc je me dis, bon, c'est vrai, on crée, mais ça prend du temps.
Voilà, donc aujourd'hui il y a des cybercriminels, il y a des cyberpolicies. Et bon, les cyberpolicies, je crois qu'on n'a pas, encore ce genre de
personnes. Non,
il n'y en a pas encore, mais ailleurs, ça existe. Et qui sait, peut-être qu'avec cette structure qui vient de mettre, il y aura des cyberpolicies. Hein,
je pense.
Les hackers. Allez, nous invitons tous ceux qui souhaitent réagir. Hein. Vous avez été escroqué sur Internet, vous êtes tombé dans le piège d'un cybercriminel. Vous pouvez réagir au 081-070-50 pour témoigner. Vous pouvez aussi nous écrire si vous nous suivez en ce moment sur www.radiocapi.net. Écrivez-nous donc à action@radiocapi.net. Mais Rémi Tchèque, on va recevoir notre invité qui est déjà dans ce studio avec nous. Il s'appelle Emmanuel Moussouyou. C'est lui qui est en fait l'initiateur de cette nouvelle structure qui vient de naître. Donc on va le recevoir, n'est-ce pas?
Oui.
Allez, à plus.
Ok, à la prochaine.
Voilà, comme annoncé, nous sommes avec Emmanuel Moussouyou, qui est en fait l'initiateur de la structure dénommée Observatoire Congolais de la Cybercriminalité, une nouvelle structure qui traite en fait les cybercriminels, n'est-ce pas?
Oui, affirmatif.
Et ça évolue plutôt bien.
Oui, mais il faut dire que nous sommes à nos débuts. L'Observatoire se recherche encore. Néanmoins, l'idée est déjà émise. Nous sommes en train de ménager aucun effort pour rendre la structure plus opérationnelle et plus efficace sur le terrain.
Mm-hmm. Et comment ça fonctionne l'Observatoire congolais de la cybercriminalité?
Écoutez, que l'Observatoire congolais de la cybercriminalité, c'est l'association universitaire que nous sommes. Il y a des juristes, des communicateurs, des informaticiens qui ont pour rôle essentiellement de recenser les cas de cybercrime qui auraient été perpétrés au Congo, mais aussi des cas dans lesquels les Congolais de l'étranger seraient impliqués. Il y a un cas où un Congolais s'est fait arnaquer en Allemagne et il aurait perdu pratiquement 3000 dollars. Et donc l'Observatoire va...
Il n'y a pas que lui, il y a plusieurs témoignages, hein?
Oui. Alors l'Observatoire va s'insérer, parce que l'Observatoire de la cybercriminalité, on n'a pas inventé la roue. Ça existe dans le monde occidental. Nous allons nous insérer dans un réseau. Nous sommes pratiquement dans un réseau. Et dès l'an prochain, je crois la fin de l'année prochaine, nous allons élaborer un premier rapport annuel où nous allons mettre en évidence tous les cas des cybercriminalités qui auraient pu être commis au Congo. Mais non seulement ça, nous allons également proposer des parades techniques et des petites techniques et petites astuces pour sensibiliser nos compatriotes de ce que nous considérons comme un tsunami informatique.
C'est bien, votre idée, hein, elle n'est pas mauvaise, mais est-ce que vous avez des moyens, vous avez des bureaux, vous avez tout ce qu'il faut pour traquer les cybercriminels?
Oui, c'est ce que je venais de dire tantôt. L'idée est déjà émise.
Oui.
Nous sommes en pourparlers avec le pouvoir public, notamment le ministère du PTT, qui a en charge la politique de TIC, les technologies d'information et de la communication. Dès l'année prochaine, nous aurons déjà un bureau opérationnel, une salle de machine pour faire le monitoring, c'est-à-dire surveiller en réseau avec nos partenaires qui vont commencer à nous envoyer les cas de cybercriminalité. Je crois que dès l'an prochain, déjà, nous serons plus opérationnels.
Donc, pour l'instant, c'est juste un projet.
Oui, l'idée déjà est émise, il est encore en chantier. Inch'Allah, l'année prochaine, ça sera effectif.
Alors, pour les gens qui nous suivent, peut-être que pour eux, c'est la première fois d'entendre parler d'un cybercriminel. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les cybercriminels? Comment on peut les définir concrètement?
Oui, avant de définir la cybercriminalité, il s'y est de définir d'abord ce que c'est la cybercriminalité. Dans le concept de cybercriminalité, il y a l'association de deux concepts, à savoir cyberespace, qui est en fait ce nouveau milieu de communication, c'est de l'interconnexion mondiale d'ordinateurs en réseau. Ça, c'est le cyberespace et criminalité. En d'autres mots, la cybercriminalité, c'est la criminalité dans le cyberespace. Sur Internet, il y a beaucoup de cas d'infractions qui se commettent, beaucoup d'actes répréhensibles qui se commettent.
Quelques exemples.
Quelques exemples, le piratage informatique. Il est possible aujourd'hui de pirater le site de Radio Capi. Si je suis un frustré, estimant que, comme on l'a dit à la cité, la monnaie est complice à un rebelle ou à un X, je peux pirater le site de Capi pour manifester mon mécontentement. Cela est tout à fait possible, sachant que par des armes, je ne peux pas exprimer ma frustration. Aujourd'hui, il est possible de voler l'identité d'un individu à travers des manœuvres informatiques, voler son compte en banque. Le 30 mars de cette année aux États-Unis, une banque a été victime de ce piratage informatique et près de 45 millions de dollars avaient été volés grâce à l'informatique. Et au Congo, on nous a signalé déjà deux cas dont la Robank a été victime, mais nous sommes encore en train de...
Qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a eu des cas de phishing. Le phishing, ça fait le vol de cartes de crédit. Deux cas que nous sommes encore en train d'étudier en équipe avec les amis. Jusqu'à l'année prochaine, nous allons parler encore un peu plus.
Il y a beaucoup de criminels sur Internet. Hein. On n'y échappe pas. Hein.
Oui, affirmatif, il y a beaucoup de criminels, beaucoup de cas de cybercriminalité qui se commettent. Malheureusement, dans l'anonymat le plus complet et dans...
Oui, Emmanuel, disons, parce que vous parlez de cybercriminalité, quelle différence faites-vous entre cybercriminalité et cyberpolice, comme ce dont est sûr?
Oui, la cybercriminalité, c'est le concept générique. Mmh. Reprenant tous les cas de tous les crimes qui se commettent sur Internet. Une cyberpolice, c'est simplement une police formée à des techniques informatiques pour traquer et, les cas échéant, appréhender les criminels reconnus comme tels dans des cas de cybercriminalité.
Voilà un peu l'observatoire que vous dirigez, joue le rôle de cyberpolice.
Non.
Pas comme l'impression.
Pas du tout.
Vous jouera le rôle de cyberpolice.
L'observatoire, c'est simplement un moteur de sensibilisation qui va recenser les cas, mais qui sera en fait un partenaire de la police congolaise qui, à travers l'office, l'école de formation des officiers de police judiciaire, peut former des policiers congolais à des techniques de cybercriminels pour traquer, parce qu'il y a des cas de cybercriminalité.
Oui, mais pourquoi ne pas travailler de façon beaucoup plus simple? Vous, en tant qu'observatoire, vous traquez les criminels sur Internet. Dès que vous avez suffisamment d'informations, que vous avez pu cibler ceux qui sont derrière, je ne sais pas moi, un réseau, vous donnez l'information à la police et la police va carrément arrêter ces gens. Pourquoi il faudrait encore former la police alors que la police, avec toutes les informations qu'elle a reçues de vous, peut directement aller arrêter les concernés, les cybercriminels?
Oui, c'est-à-dire que par analogie, un crime sur Internet n'est pas un crime ordinaire. Il faut une preuve.
Mais vous avez les preuves.
Non, mais c'est pas de notre rôle de traquer et de l'appréhender.
Non, vous n'appréhendez
pas. Un crime reste un crime.
Un crime reste un crime. Nous dénonçons.
Voilà.
Nous dénonçons à travers un rapport ou à travers une information que nous expédions à la police. Mais c'est à la police d'instruire une enquête et même d'associer à cela le parquet. Ça, c'est pas notre rôle. La cybercriminalité, c'est un phénomène, un danger public. Et c'est le pouvoir public qui doit prendre cette problématique à bras les corps. L'observatoire ne sera là que pour dénoncer et pour révéler les cas. Sera en fait l'œil de l'opinion publique, des internautes, concernant ce phénomène d'un genre nouveau.
Vous avez suivi tout à l'heure le témoignage de certaines personnes, hein,
oui.
Un monsieur qui est tombé dans le piège d'un cybercriminel, hein,
oui.
Au nom de Omar, point de suspension, qui lui aurait demandé d'ouvrir un compte et d'y verser $350 afin que lui puisse verser plutôt un gros montant, chose qu'il n'a jamais fait.
Oui.
Il y a beaucoup de cas comme ça.
Oui, hein, j'aimerais préciser que la cybercriminalité a ceci de particulier, c'est qu'un crime peut être commis à partir de la France, mais se perpétrer en Allemagne ou je ne sais pas dans un autre pays. D'où, en matière de cybercriminalité, on ne lutte pas contre la cybercriminalité en comptant spécifiquement sur la législation locale. Il est impérieux que les États africains, en Europe, bien évidemment, le Conseil de l'Union européenne, le 21 novembre 2001, a adopté à l'unanimité une convention de lutte contre la cybercriminalité où les États de l'Union européenne s'étaient convenus de mettre en place un arsenal juridique afin de traquer les cas échéants, les cas de cybercriminalité. Cela doit s'appliquer naturellement en Afrique. L'Afrique doit aussi, à travers l'Union européenne, mais il y a aussi l'Interpol qui a beaucoup de groupes de réflexion, l'Interpol qui est la police internationale, il y a beaucoup de groupes de réflexion autour de la cybercriminalité.
Oui.
Il est impérieux que l'Afrique se dote aussi d'une charte de lutte contre la cybercriminalité. Et qui sait si c'est l'observatoire congolais qui va impulser cette dynamique?
Qui sait, mais en tout cas, on a beaucoup de témoignages. On reçoit énormément de témoignages des auditeurs qui nous suivent. Et là, qui nous dit, moi, j'ai été victime d'une escroquerie, mais malheureusement, je n'ai pas assez d'unités pour témoigner. Hein. On va peut-être le rappeler dans un instant, afin de l'aider. Nathan de Mujimae qui dit, un sujet grec m'a sifflé, bon, je crois qu'il a escroqué, 1 480 $ pour une palette radio FM, son site et cdmelectronique.gr. Donc, je crois qu'il a donné ce montant-là, mais il n'a pas reçu jusqu'à ce jour.
C'est ça le drame.
Oui.
C'est ça le drame. Les gens
et
se
il nous donne le site en question.
Oui, ça, oui, il donne le site, bien évidemment. Mais par exemple, en pareil cas, comment appréhender ces criminels?
À travers le site?
Non, mais le site est virtuel. Mais comment l'appréhender physiquement? D'où il faut une coopération à l'échelle internationale avec l'Interpol. Un cas comme ça peut être dénoncé à partir de l'Interpol.
Vous êtes en contact avec l'Interpol?
Oui, j'ai déjà échangé plusieurs fois, mais la coopération devra encore se consolider, encore un peu plus, je crois, au début de l'année prochaine. Mm-hmm. Parce que début de l'année prochaine, nous comptons, Inch'Allah, organiser un colloque où nous allons réunir différents acteurs pour penser à coucher une politique de lutte contre la cybercriminalité au Congo. Il y aura beaucoup d'interventions.
Dans les colloques, dernièrement, selon nos sources, vous avez organisé une conférence de presse et la majeure partie des conférenciers était composée des jeunes. Pourquoi avoir ciblé cette catégorie des personnes?
Non, petit rectificatif, il ne s'agissait pas d'une conférence de presse, il s'agissait plutôt de la journée mondiale de la société de l'information, tenue à la FIKIN, et la journée avait été organisée par les ministères de Poste, Téléphone et Télécommunications, et le thème central c'était connecter les jeunes, deux points, les possibilités offertes par l'éthique. Et j'avais été sollicité à cet effet pour intervenir dans mon dada, dans mon domaine de prédilection qui est la cybercriminalité. Et à cet effet, j'avais exposé sur la jeunesse congolaise face aux enjeux de la cybercriminalité. Aujourd'hui, un jeune pratiquement sur trois, un jeune congolais sur trois, va à un cybercafé pour naviguer dans les sites pornographiques. C'est véritablement un drame. Et à cet effet, nous allons, en partenariat avec éventuellement Save the Children, le Bureau international catholique de l'enfant et le ministère de l'enseignement primaire et secondaire, initier une campagne bientôt là pour sensibiliser la société de l'information des internautes sur ces dangers qu'est la cyberpédophilie.
Oui, alors Emmanuel, nous rappelons encore une fois nos auditeurs qui peuvent participer à cette émission, témoigner au 081 070 2050. Nous continuons à avoir des témoignages. Il y a un monsieur qui nous dit: je suis à Kinshasa, moi j'ai failli être escroqué sur internet pour un boulot, donc un travail au Canada. On m'a demandé $100. Heureusement que les amis qui vivent au Canada, j'en ai, m'ont mise en garde, mais il y a aussi l'ancien ambassadeur canadien Bolduc qui m'a mise en garde, sinon j'aurais pu être escroqué, hein. Ça c'est lui qui le dit. Il y en a un autre depuis Béni, il s'appelle Blaise Condé, et lui nous dit: cela m'est arrivé quand j'étais à Kampala, que je devais recevoir cette grande somme de $200,000 américains. Après avoir versé 750, donc on lui a dit qu'il avait gagné $200,000 américains, mais seulement à condition qu'il verse $750 par compte bancaire. Mais il dit: j'étais déjà averti que c'était une escroquerie, Dieu merci. Donc il y a quand même des gens qui sont informés, mais d'autres non. Hein.
Oui, d'où la pertinence même d'un observatoire congolais de la cybercriminalité, qui va se donner pour rôle de sensibiliser, de mettre au courant les internautes congolais de ce que moi je qualifie de tsunami informatique.
Oui, Emmanuel, qu'en est-il des spams, par exemple? Parce qu'on parle également des virus.
Est-ce que, il faut préciser les spams.
Oui.
C'est quoi les spams?
Les spams, il faut d'abord dire que le spam, c'est la contraction de deux mots anglais, spiced and poke meal. En français, on traduit le courriel, le courrier pourri. Alors, pourquoi les spams est considéré comme un mot de cybercriminalité? Pour le simple fait que d'abord, c'est un message indésirable. On vous envoie un message sans votre consentement préalable. Et de deux, les spams sont un moyen de tricherie des entreprises pour payer un moindre frais de la publicité. Parce que vous savez mieux que moi que la publicité à travers les médias traditionnels coûte plus cher et à travers Internet, cela coûte moins cher. Donc, il est préférable d'envoyer les messages par Internet, c'est-à-dire que nous dépenseront moins, là c'est la société, et de trois, sur le plan technique, les spams occasionnent la saturation de réseau. Vous remarquerez parfois, vous accédez à un site, cela s'est fait avec beaucoup de lourdeur, il n'y a pas de site haut débit, c'est en partie aussi grâce à ce spam. Et en Chine, il y avait une enquête qui avait démontré que les spams étaient à la base d'une perte de 150 milliards de yuan, l'équivalent de 8 milliards de dollars pratiquement.
Donc, finalement, les spams, en même temps, ça a des avantages, mais aussi des inconvénients.
Plus de désavantages que d'avantages, en tout cas.
Des avantages pour
l'entreprise.
Pour ces entreprises, ouais, qui vont payer moins en matière de publicité, mais des avantages parce que ça encombre d'abord les boîtes e-mail des internautes inutilement,
et ça leur fait perdre du temps parfois à les effacer.
Uh-huh. Alors Emmanuel, on continue à recevoir des SMS de nos auditeurs. On va lire rapidement quelques SMS encore. Il dit, moi je m'appelle José Ambojimaï, un certain m'a pris Pierre, m'a escroqué $450 par internet. Serge Bokungu nous dit, j'étais aussi escroqué à travers l'internet, on m'a pris $500. Donc est-ce qu'à travers votre structure vous pouvez
démonter les certaines raisons?
Oui, est-ce que vous pouvez le faire? Parce qu'il y en a qui nous dit ici, comment l'observatoire peut traquer les cybercriminels? Ça, c'est Eric depuis Mahadi qui nous l'a dit.
Comptez sur vos conseils.
Naturellement, et c'était d'ailleurs ça l'enjeu de l'émission. Je crois que l'effet que j'ai escompté a tenu sa promesse. Mon objectif était fait de sensibiliser, sachant que au Capi couvre tout le Congo, il y a beaucoup de cas de maladies, par exemple, qui ne sauraient pas être connus. Et Dieu merci, à travers cette émission, ces cas sont connus. Donc l'enjeu, disais-je, de l'émission pour moi, c'était que nous ayons beaucoup de cas possibles. Et nous allons, dans la mesure du possible, répondre.
Alors, puisque vous parlez des cas suivis à travers le pays, même au-delà de la RDC,
oui.
Les auditeurs qui sont tombés dans le piège de ces cybercriminels devraient vous contacter?
Oui, certainement. Nous devrions vous contacter. Dans un premier temps, à travers OCAPI. Et je verrai, dans la mesure du possible, avec votre autorisation, JR et Nicole, organiser une deuxième émission où nous allons.
Qui nous écrivent à vous.
Tout à fait, nous allons récolter ces cas. D'ici le début de l'année prochaine, nous allons mettre en place un site où il sera possible de signaler tous les cas illicites, de cybercriminalité qui ont été commis, mais aussi dans le même site, on trouvait les internautes auront la possibilité de trouver des conseils et des astuces.
Pour les aider à
une dernière précision ailleurs, oui. Il y a ce type de structure, est-ce qu'on a pu arrêter certains cybercriminels?
Affirmatif, il y a beaucoup de cybercriminels qui ont comparu et ont répondu de leurs actes, en France notamment.
C'est souvent des jeunes gens, hein?
Des jeunes, oui, qui sont très friands de l'informatique et qui commettent. J'ai un cas qui me vient en tête en France, en Lyon, à Lyon précisément. Il y a un jeune qui a créé un site, qui a imité le site d'une banque et a, comme ça, escroqué 20 000 euros.
Et on l'a arrêté.
Oui, il a été arrêté, il a comparu.
Gare au cybercriminel.
C'est vraiment mon rêve.
Emmanuel Moufri, on va s'arrêter là. Nous vous souhaitons bon courage à travers l'Observatoire qui va traiter les cybercriminels. Hein.
Oui.
Et on rappelle encore une fois nos auditeurs, parce que vous avez souhaité la collaboration de tous ceux qui se sont fait arnaquer. Ils peuvent toujours contacter à travers l'adresse de Radio Capi.
Oui, donc nous venons de sceller pratiquement un mariage entre Capi et l'Observatoire congolais.
Ouais.
Et j'aimerais, pour terminer, vous remercier du fond de mon cœur, JR et Nicole, pour cette opportunité que vous m'avez offerte. Vous avez vous-même vu l'impact que l'émission a eu. Il y a eu beaucoup de réactions. Juste croire que vous serez encore disposé à organiser une deuxième, pourquoi pas une troisième émission autour du sujet.
On pourrait faire le suivi, mais on constate que bon nombre de gens réagissent à action@radiocapi.net.
Okay,
merci encore.
Je vous en prie.